Séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame Dulan-Saint-Denis, Madame Jean-Saint-Denis, relativement à Ho Chi Minh. Elle est notre confrère depuis 1995, archiviste paléographe, licenciée S-Lettres, ancienne de l'UNESCO, de la direction des bibliothèques, de la bibliothèque Jean Le Baudy, a beaucoup publié aussi sur Mazarin, sur le XVIIIe siècle. Elle reste sans doute, de l'Institut Charles de Gaulle, et elle a connu l'Indochine par son mari, M. Saint-Denis. Elle a publié plusieurs ouvrages sur l'Indochine. Elle a été aussi l'élève d'Henry Kissinger et a joué un rôle dans des entretiens franco-vietnamiens. C'est une communication à la fois savante, historique et malgré tout existentielle sur Ho Chi Minh. Je crois que vous connaissez bien les règles du jeu, donc je ne les rappellerai pas. Vous avez la parole, Mme Saint-Denis.
En 1956, j'arrivais à Hanoï, jeune marié, ignorant tout de l'Extrême-Orient et n'ayant jamais pénétré dans un pays communiste. Une invitation de Pham Van Dong, premier ministre de la RDVN ou République démocratique du Vietnam, nous attendait pour dîner le lendemain soir, 18h30, au palais. Palais qui était celui de nos anciens gouverneurs, hélas. Nous arrivons, il faisait nuit, jardin obscur, un escalier de pierre très raide, des salons plutôt démeublés, ouverts à tout vent, avec ventilateur au plafond. Pham Van Dong tout seul, assis bien droit dans un fauteuil, vêtu d'un mao noir qui ne manquait pas d'une certaine élégance austère. Pas d'autres convives. Très mauvais dîner, très mauvais vin, dont un mousseux chinois sucré dont je me souviens encore parce qu'il était imbuvable. Au dessert, tous les sujets de conversation possibles étaient épuisés. La chaleur accablait malgré le ventilateur. J'étais la seule femme, est-ce que je devais donner le signal? Le boy avait disparu depuis un certain temps, empruntant le couloir par où se faisait le service. Ce couloir était masqué par un rideau. Soudain, le rideau se souleva à demi et j'entendis « Coucou !» C'était Ho Chi Minh. Égal à lui-même, dans sa défroque de chauffeur colonial, une vareuse de toile kaki clair, mal boutonnée, sur des pantalons tire-bouchonnés, au menton sa célèbre barbiche, aux pieds ses célèbres spartiates portés sur des chaussettes. À la main, une petite canne de jonc qui donnait à l'ensemble la dernière touche chaplinesque. Canne tout à fait inutile, car il marchait fort prestement. Il s'assit sur une chaise et nous restâmes là, provincialement, autour de la table, moi, l'écoutant, stupéfaite, évoquer les personnalités françaises qu'il avait connues avant la guerre, comme si précisément il n'y avait pas eu de guerre. « Il va bien, monsieur un tel, et le président X et le gouverneur Y, je suis bien content de l'apprendre. Vous leur transmettrez mon souvenir. » Enfin, on a fait mouvement. Alors, Ho Chi Minh, à moi. « Est-ce que vous aimez les fruits de notre pays ?» Je réponds naturellement « Beaucoup, monsieur le Président. »« Alors tenez, me dit-il, emportez ceci. » Et il me verse dans les mains le reste du contenu du compotier que le boy avait laissé sur la table. Je peux vous dire que ce fut un bel effort que de descendre dans la nuit très noire le très raide escalier du palais sans laisser échapper le moindre des fruits tropicaux dont m'avait fait offrande le naufrageur d'Empire. Si je vous ai raconté cette anecdote, c'est pour vous montrer le côté comédien d'Ho Chi Minh, car c'est un aspect essentiel de sa personnalité à cause duquel, précisément, on s'est longtemps interrogé sur cette personnalité. Il paraissait à la fois trop vif et trop flué, trop bon enfant et même clownesque, pour qu'on mesurât bien sa force de caractère, son inébranlable détermination et l'ascendant qu'il pourrait exercer. Ce n'était pas un agitateur comme un autre. Comment le voir avec un couteau entre les dents ? Son entourage a d'ailleurs très vite compris qu'il tenait un personnage exceptionnel et s'est employé à fortifier sa légende au mépris parfois de sa vie privée ou de ce qu'il lui en restait. Un exemple, emprunté à une période plus tardive de son existence. En 1954, l'entourage choisit une jeune et belle personne, cadre du parti, pour assurer, je cite, « l'équilibre psychophysiologique et la bonne santé de l'oncle ». Mais la demoiselle demande d'abord le mariage. Alors là, refus, parce que le mariage ne serait d'aucun profit politique pour l'oncle. Les flous, obscurités, imprécisions chronologiques ou autres dans la biographie de Chimine ne tiennent pas seulement aux secrets observés par tous les révolutionnaires ou aux lacunes de notre information. Elles procèdent souvent de ce même besoin de légende. Elles ont également valeur de symbole. Ainsi, O est probablement né en 1892. Il l'a écrit lui-même dans un temps et dans des circonstances où il n'avait aucune raison de mentir. Pourtant, c'est la date de 1890 qui a été retenue par l'histoire officielle et qui est gravée sur son cénotaphe. Pourquoi ? Peut-être pour avoir un chiffre rond, plus facile à graver dans les mémoires. Peut-être aussi pour que O ait nettement dépassé la cinquantaine quand il apparaît sur la scène, ayant pris ce nom qui lui restera. 50 ans, c'est l'âge de la sagesse, l'âge où l'on est digne de l'appellation Bac, l'oncle, et pas n'importe quel oncle, mais le frère aîné du père, un homme d'autorité, digne d'exercer le pouvoir. Le mois et le jour même de sa naissance ont été changés. Les biographes officiels ont choisi et imposé le 19 mai, parce que c'est le jour de la fondation du Viet Minh en 1941. Quant aux identités multiples, on a recensé jusqu'à 165 pseudonymes, elles ne tiennent pas non plus à la seule volonté de dissimulation. Les noms aussi doivent avoir une valeur symbolique. Ainsi, Nguyen Ai Quoc, le nom qu'il a le plus longtemps employé, signifie Nguyen le patriote. Quant au nom qui lui est resté, il vient de Ho, qui est le patronyme d'un empereur réformiste du XVe siècle, Chimin signifiant celui qui éclaire. Il était le fils d'un lettré du Nord Annam, d'origine paysanne, qui était devenu un petit fonctionnaire impérial. Mais l'homme buvait et fut révoqué en 1911. Il aurait fait bastonner à mort un de ses subordonnés. Retenons que la famille se trouva dès lors plongée dans la pauvreté et presque dans l'indigence, malgré les petits secours que Ho lui enverra. Il avait lui-même suivi une brève scolarité à Hué. On pense qu'il a obtenu le certificat d'études primaires franco-indigènes, qui n'était pas le même que le français. Au moment de la révocation de son père, il est répétiteur dans une école privée. Plus pour longtemps, il va s'en aller parcourir le monde. Est-ce que la révocation du père par le sentiment d'injustice qu'elle a pu engendrer a joué dans cette décision ? Difficile à dire. Ce qui est sûr est que les jeunes nationalistes d'Indochine obéissaient tous au même slogan. Aller étudier à l'étranger et revenir aider le pays. Il fallait notamment comprendre d'où provenait cette supériorité ou cette prétendue supériorité des pays occidentaux qui leur avait permis de dominer une partie de l'Asie. En avril 1911, Ho, sous le nom de Nguyen Ai Quoc, s'embarque donc sur l'amiral Latouche Tréville, des chargeurs réunis. Ses camarades de soute l'appellent l'étudiant, car entre les manœuvres, il passe son temps à lire. Il bourlingue ainsi jusqu'en 1913 comme garçon de cabine, aide-cuisinier, relâche dans des ports d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Pendant la Grande Guerre, il est un temps à Londres où il vivote des plus bas métiers, balayeur de neige, chauffeur de chaudière, etc. Puis, réussissant à se faire embaucher au Carlton dans la brigade du grand chef Escoffier, il se spécialise dans la pâtisserie, mais surtout, il perfectionne son anglais qu'il parlera couramment. Toujours, partout, dans cette première période de sa vie, il cherche à s'instruire par tous les moyens. Il dira plus tard qu'il était en France quand la révolution russe a éclaté. Il se peut que là aussi, il y ait une volonté de symbole. On comprend pourquoi. Les mutineries dans les troupes françaises coïncident chronologiquement avec la révolution russe. Pour d'autres, O ne serait arrivé en France qu'en 1919. Je proposerai 1918 parce qu'on trouve cette année-là dans La Vie ouvrière, journal socialiste, la petite annonce suivante. Si vous voulez garder un vivant souvenir de vos parents ou amis, faites agrandir vos photos chez Nguyen Aikok, 9 impasse Compoint, 17e. Beau portrait, beau cadre, à partir de 45 francs. Il gagnera aussi son pain en tant que dessinateur d'antiquités asiatiques. Si vous avez des faux, ne les jetez pas, ils peuvent avoir de la valeur. L'important est de savoir qu'il adhère au Parti socialiste et découvre par un camarade les thèses de Lénine sur le problème des nationalités et des peuples coloniaux. Dans ses thèses, écrira-t-il plus tard, il y avait des termes politiques difficiles à comprendre. Cependant, en les lisant et relisant plusieurs fois, j'étais arrivé à en saisir l'essentiel. Les thèses de Lénine suscitaient en moi un grand enthousiasme, une grande foi, et m'aidaient à voir clairement les problèmes. Ma joie était si grande que j'en arrivais à pleurer. Seul dans ma chambre, je m'écriais, comme si j'étais devant une grande foule, « Chers compatriotes opprimés et misérables, voici ce qu'il vous faut, voici le chemin de votre libération. » Son premier coup d'éclat est proche. Ayant rédigé les 8 revendications du peuple annamite, il loue un complet chez un fripier pour pouvoir pénétrer au palais de Versailles, où se tient, depuis le 18 janvier 1919, la conférence de la paix. Il dépose le texte dans les mains d'un conseiller du président Wilson. Wilson avait présenté au Congrès ses propres 14 points, dont l'un était le règlement des questions coloniales. O ne reçoit que de brefs remerciements. Il est quand même devenu un personnage en s'avançant ainsi, à visage découvert, dans le pays qui domine le sien. Les militants de la CGT distribuent 6000 exemplaires de son texte sur la voie publique. En décembre 1920, participant au 18e congrès du Parti socialiste à Tours, il lance « Je ne comprends rien aux grands mots dont vous vous servez, mais je comprends fort bien une chose. Les adhérents à la deuxième internationale n'ont pas dit un mot sur le sort des peuples coloniaux. » Il vote donc le 30 décembre pour l'adhésion à la troisième internationale. En juin 1923, départ pour l'URSS. Moscou donne alors priorité au soutien des nationalismes révolutionnaires d'Asie. L'international entreprend donc de recruter des militants coloniaux pour l'Université des Travailleurs d'Orient, KUTB. Ho Chi Minh va être le premier Vietnamien à assimiler la théorie révolutionnaire au cours d'une immersion de 18 mois en Union soviétique. Il a fait l'éloge de cette Université des Travailleurs d'Orient, qui, écrit-il, abritait sous son toit l'avenir des peuples coloniaux en formant un millier d'étudiants et d'étudiantes de 62 nationalités, tous ardents et graves, car ils avaient souffert et mesuré l'importance de leur mission. Ce qui le séduit aussi et naturellement à Moscou, c'est l'intégration à une organisation de combat telle que le Comintern, disposant d'un réseau mondial. Il dira plus tard, en 1945, à l'un de ses interlocuteurs américains, « Arracher l'indépendance à une puissance comme la France est une tâche formidable qu'on ne peut accomplir sans aide extérieure et pas nécessairement une aide en armes. Ce fut l'erreur qu'on ne gagne pas l'indépendance en jetant des bombes et par des actes de ce type. Ce fut l'erreur que les premiers révolutionnaires ont commise. On gagne l'indépendance en s'organisant, en faisant de la propagande, en se formant et en se disciplinant. On a aussi besoin d'une foi, d'un évangile, d'une analyse pratique, on peut même dire d'une Bible. Le marxisme-léninisme m'a fourni cette panoplie. » Il n'oublie jamais lui-même l'importance de la pédagogie. En novembre 1924, ayant rejoint la mission soviétique de Borodine auprès du gouvernement révolutionnaire de Sun Yat-sen à Canton, il met en place et anime pendant 2 ans une organisation révolutionnaire vietnamienne, en abrégé le Tan Nien, à partir d'un groupuscule d'activistes qui survivaient en exil à Canton. Jusqu'à 1927, il ne formera pas moins de 200 canbo, cadres, au rythme de 20 à 30 par trimestre. Les meilleurs éléments sont ensuite infiltrés ou réinfiltrés en Indochine. L'un d'eux est un jeune mandarin de haut rang, Pham Van Dong. O n'aura jamais de graves différends avec ses maîtres de Moscou, si ce n'est que ceux-ci lui reprochant son nationalisme et l'importance qu'il attache à la paysannerie. Sur ce point-là, pourtant, c'est lui qui avait raison. La classe ouvrière, à l'époque, n'était pas une force en Indochine. Nous n'allons pas le suivre pendant toutes les années obscures où il œuvre dans l'ombre à la réalisation de son idéal, sans échapper toujours aux diverses polices qui commencent à découvrir son action. La police de Chiang Kai-shek aux frontières chinoises, celle des Anglais à Hong Kong, qui, après l'avoir capturé, finira par le libérer alors que la France demandait son extradition. Mais à partir de 1933, ses activités étant maintenant connues, il a perdu la possibilité d'agir en Indochine, où sévit d'ailleurs une terrible répression contre dirigeants et militants nationalistes. On compte alors 10 000 prisonniers politiques dans nos bagnes et prisons, et je ne parle pas des guillotinés. Mais quand, en 1943, Ho Chi Minh, après un nouveau séjour à Moscou, un autre à Yan'an, capitale de la Chine rouge de Mao Zedong, repasse la frontière à pied, portant sa valise en rotin et sa machine à écrire, la situation de l'Indochine a radicalement changé. Elle lui ouvre des perspectives qu'il va exploiter avec la plus grande astuce. La défaite et l'invasion de la France ont porté un coup fatal à notre prestige en tant que colonisateur. De plus, les Japonais, alliés des Allemands, mettent à profit la capitulation française pour pénétrer en Indochine. En 1941, ils l'ont entièrement investi. Ho Chi Minh comprend alors, et c'est capital, que la révolution sociale doit céder le pas, momentanément du moins, à la révolution de libération nationale. Ainsi pourra-t-il réaliser une sorte d'union sacrée pour l'indépendance de divers milieux sociaux et mouvements nationalistes. L'instrument de cette lutte sera le nouveau parti que Ho crée le 19 mai 41 dans la grotte de Pakbo, dans les calcaires du pays Nung, où il s'est installé près de la frontière chinoise. Ce parti, c'est en abrégé le Viet Minh, dont le nom complet signifie « Alliance pour l'indépendance du Vietnam ». Bientôt là, ou plutôt les grottes de Pakbo, deviennent un lieu de ralliement. Ho y est rejoint par une de ses plus remarquables recrues, Von Nguyen Giap, le futur général Giap. À eux deux, profitant de notre faiblesse, ils créent une zone dite libérée, le Viet Bac. Il y en aura bientôt 6 autres. Une arrestation et un nouvel emprisonnement de Ho par les Chinois de Chiang Kai-shek interrompent un temps ses activités, mais en septembre 1943, sous ce nom qu'il ne quittera plus, il est de retour à Pakbo et endoctrine les partisans de plus en plus nombreux qui viennent le rejoindre, car il apparaît clair maintenant que la France ne peut plus prétendre à dominer l'Indochine. En effet, les humiliations n'ont pas cessé depuis celles de 1940. Nous nous sommes soumis à toutes les exigences des Japonais, qu'on ne peut pas détailler ici. Et quand la guerre dans le Pacifique tourne à l'avantage des Alliés, l'occupation douce, si l'on peut dire, des Japonais se transforme en mainmise totale et sanglante, car ils ne veulent pas perdre la base indispensable que constitue pour eux l'Indochine. Ce fut le coup de force du 9 mars 1945. On sait les horreurs auxquelles il donna lieu. Qu'a fait la France pendant ce temps-là pour tenter de rentrer en Indochine? En novembre 1944, le commissariat aux colonies, qui recherchait tous les administrateurs disponibles pour assurer la relève outre-mer, avait affecté Pierre Messmer à Calcutta pour y créer la mission militaire de liaison administrative chargée de préparer la mise en place de notre administration en Indochine quand le progrès des opérations militaires le permettrait. Passons sur les détails, vous les trouverez dans les ouvrages de Pierre Messmer lui-même. Il suffit de savoir que l'opération aérienne qui devait le larguer au Tonkin avait été si mal conçue qu'elle coûta la vie à l'un de ses camarades et que lui-même ne survécut et n'échappa au Viet Minh que par des prodiges d'endurance et de ruse. Ajoutons qu'il y eut en tout 7 opérations de ce type et que les 7 échouèrent pour les mêmes raisons, ignorance à Paris de la réalité indochinoise du moment et particulièrement de l'implantation du Viet Minh au Tonkin. Une autre équipe française, dirigé par Jean Saint-Denis, avait été envoyé par la DGER en Chine méridionale, Ming, qui était le centre nerveux de la guerre dans le sud-est asiatique. S'y trouvait notamment une forte antenne de l'OSS, c'est-à-dire des services secrets et subversifs des États-Unis. Cette équipe, Mission 5, se rendit compte elle aussi que Paris s'aveuglait sur la situation de l'Indochine et elle constata tout de suite, avec l'amertume qu'on imagine, que les Américains de l'OSS à Kunming mettaient tout en œuvre, notamment en lui refusant des avions pour qu'elle ne parvint pas à Hanoï. En revanche, les Américains de Kunming ont fort bien accueilli Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, qui, vous vous en souvenez, est revenu en février 1943 dans sa grotte de paquebot. C'est qu'il a réussi un coup extraordinaire. Ses hommes ayant trouvé dans la jungle un aviateur américain abattu, il est allé lui-même à Kunming pour l'y ramener. Ho va obtenir des Américains de l'OSS argent, armes, munitions, appui d'une équipe parachutée qui le rejoindra dans la jungle avec un opère radio et des entraîneurs pour ses guerriers roses. Ne négligeant aucune piste, Ho Chi Minh a également pris contact par des voies détournées avec Mission 5. Et pour montrer sa bonne volonté, il lance en juillet une attaque contre la station climatique du Tam Dao et y fait libérer 180 Français que les Japonais y avaient internés. Après quoi, le 30, il fait savoir qu'il est prêt à venir à Kunming début août pour discussion. Depuis le mois de mai, Jean Saint-Denis envoyait des messages à la DGER de Calcutta, dont il dépendait, pour savoir s'il pouvait et de quelle façon répondre à ces ouvertures. Car Ho a fait dire qu'il était prêt à coopérer avec des éléments de la France Nouvelle pour chasser les Japonais d'Indochine, qu'il avait d'importants moyens à sa disposition, mais qu'il n'entendait pas accepter le principe de la réinstauration de la souveraineté française. Jean Saint-Denis n'a pas reçu de réponse précise, même lors du séjour qu'il a fait à Paris en juillet à cette fin. Le 11 août, les bombes atomiques étant tombées le 6 et le 9 sur Hiroshima et Nagasaki, il s'impatiente et souligne qu'il y a maintenant risque que Masque, c'est le nom de code du Viet Minh, ou autre parti indigène, tente de recevoir la capitulation japonaise ou de prendre le pouvoir. Le 12 août, autre télégramme. Il attend toujours des instructions pour répondre aux ouvertures qui ont été faites, alors ajoute-t-il que ceci est une question d'heure. En effet, le Japon capitule le lendemain 13, et pour comble de malheur, les Alliés attendent le 2 septembre, jour de la reddition officielle, pour envoyer des troupes en Indochine. D'où un vide politique et militaire qui constitue une aubaine inespérée pour les mouvements nationalistes et surtout pour le Viet Minh, le mieux préparé. Le 15 août, Jean Saint-Denis, il est vrai, a reçu un télégramme retransmis par Calcutta, mais qui disait, je cite, « Gouvernement provisoire, pris de court par la capitulation japonaise, compte sur nous pour parer au plus pressé. » Les 16 et 17 août, au cours d'un congrès national du Viet Minh, Ho Chi Minh fait connaître qu'il n'a pas reçu de réponse des Français. À la suite de quoi, le congrès approuve le déclenchement de l'insurrection dans tout le pays. Il s'agit de prendre le pouvoir et de former un gouvernement provisoire pour, en effet, parler au nom du Vietnam quand les Alliés arriveront. Giap entreprend aussitôt la lutte contre les partis nationalistes rivaux par tous les moyens. Le 19 août, des éléments Viet Minh prennent le contrôle d'Hanoï. Le 2 septembre, alors qu'est signée la capitulation japonaise en baie de Tokyo, Ho Chi Minh, sur la place Ba Dinh, proclame l'indépendance du Vietnam et la création d'une république démocratique. Les Japonais laissent faire. Dans l'intervalle, Mission 5 avait enfin réussi à parvenir à Hanoï le 22 août, s'était installée au bluff au palais du gouvernement général, mais elle y était sous l'étroite surveillance tant des Américains de l'OSS qui l'avaient escorté que des militaires japonais toujours présents malgré la capitulation et bientôt des Chinois aussi. Car chose à peine croyable, c'est aux Chinois que les Alliés, ayant divisé l'Indochine en deux zones à hauteur du 16e parallèle, ont confié le désarmement des Japonais au Tonkin. Aux Chinois qui avaient jadis pendant 10 siècles occupé l'Indochine et qui la considéraient toujours comme une province satellite. Décision catastrophique prise à la conférence de Potsdam où la France n'était pas conviée. Sous les pressions conjuguées dont ils sont l'objet, les membres de l'équipe française parvenue à Hanoï seront contraints le 10 septembre d'abandonner le palais pour aller camper dans des locaux de fortune et y craindre le pire. Leur présence, les contacts qu'ils ont eus et parviennent à maintenir, ont néanmoins rendu l'espoir aux 30 000 Français de Hanoï qui, menacés, spoliés, agressés, vivaient dans la terreur et se croyaient abandonnés. Le Viet Minh et son chef avaient des difficultés d'un autre ordre. Si les Japonais laissaient faire et même leur passer ou vendaient des armes avant de partir, comment allaient agir les Chinois? Ces Chinois de Chiang Kai-shek, avec lesquels Ho a eu si souvent mal à partir et qui ont en Indochine leur propre protégé. Passons sur le déferlement de cette armée de pillards, atteignant avec ses services annexes quelques 200 000 hommes, qui s'abat sur le Tonkin, volant tous sur son passage jusqu'au bouton de porte. Les protégés de ces nouveaux occupants, on ne peut pas les appeler autrement, ce sont des mouvements nationalistes rivaux du Viet Minh. C'est une des raisons pour laquelle Ho Chi Minh fait des gestes en faveur des Français. Il faut savoir que dans l'intervalle, l'amiral Thierry d'Argentlieu avait été nommé par le général de Gaulle haut-commissaire et commandant en chef des forces militaires en Indochine. Mais l'amiral n'avait pas pu dépasser Chandernagor. C'est là que Jean Saint-Denis va le trouver le 1er octobre pour l'informer de la gravité de la situation. En sortant de son bureau, il se trouve en présence d'un officier général qu'il ne connaissait que par des photographies de presse, c'était Leclerc, qui, lui, avait été nommé par de Gaulle commandant supérieur des troupes en Extrême-Orient. Rencontre qui a son importance, car les renseignements fournis à Leclerc en cette occasion le convainquirent que la solution de force était impossible. En Cochinchine, il avait eu l'aide des Anglais pour reprendre pied. Mais au Tonkin, il n'y a rien à espérer de personne et surtout pas de nos alliés chinois. Pour pouvoir y débarquer, comprend Leclerc, il faut donc obtenir l'accord du gouvernement en place, celui d'Ho Chi Minh, qui devra prendre la responsabilité de faire accepter à la population le retour de forces françaises. Sinon, c'est le déclenchement d'une guerre de jungle impossible à gagner. C'est pourquoi Leclerc va encourager Jean Saint-Denis à traiter avec Ho Chi Minh. Et s'il le pressera de conclure, je cite, « fût-ce au prix d'initiatives qui pourraient être désavouées », c'est aussi parce que des raisons climatiques et logistiques lui imposent de débarquer au début de mars 1946. En cette période seulement, il aura les bateaux qu'il lui faut et les grandes marées lui donneront le tirant d'eau nécessaire pour parvenir jusqu'au port de Haïphong. Avant d'aller plus loin, je veux vous rassurer sur le sort de Pierre Messmer. On avait fini par le retrouver dans Hanoï. S'étant jeté dans les bras des Chinois pour échapper à ceux du Viet Minh, ça paraît compliqué, mais on le comprend quand on le lit, il se trouvait en assez piètre état dans une annexe de la résidence du général Luan, commandant des troupes chinoises. C'est là qu'un membre de Mission 5, le regretté François Missoff, qui furetait partout avec intrépidité, l'avait localisé, et c'est là que Jean Saint-Denis alla le rechercher le 26 octobre. Je ne résiste pas à vous citer leur premier dialogue. Jean Saint-Denis, je suis heureux de vous voir. Pierre Messmer, je m'excuse d'arriver avec un tel retard. Il y a là un côté Stanley Livingstone qui est assez piquant malgré les circonstances. Les négociations entre Ho Chi Minh et Jean Saint-Denis durèrent près de 6 mois, de nuit, dans une villa de Hanoï. Le premier était généralement assisté de Hong Ming-jam, son futur ministre des Affaires étrangères, le second de l'administrateur Léon Pignon et, pour le détail des questions militaires, du général Salan, les uns et les autres enfin envoyés à Hanoï pour appuyer Mission 5. La discussion la plus ardue concerna la traduction du mot « Doc Lap ». Pour les Vietnamiens, il signifiait « indépendance », les Français s'en tenant à « autonomie ». Le 14 février 1946, Leclerc télégraphia à Paris qu'il fallait aller jusqu'au mot même d'indépendance pour éviter le risque d'aller à un échec trop grave. Ho Chi Minh accepta finalement la formule « État libre ». Un État libre qui ferait partie de la Fédération indochinoise et de l'Union française, comme l'avait voulu la déclaration gouvernementale du 24 mars 1945. En ce qui concerne la réunion des trois qui, Tonkin, Annam, Cochinchine, qui était une revendication essentielle du Viet Minh, comme de tous les mouvements nationalistes, le gouvernement français s'engageait à entériner les décisions qui seraient prises par les populations annamites lors d'un référendum. La signature eut lieu le 6 mars, à 16 heures, dans la villa où l'on se réunissait habituellement. Jean Saint-Denis fit part à Ho Chi Minh de sa satisfaction. « Et moi, répondit-il, j'ai de la peine, car au fond, c'est vous qui avez gagné. Vous savez bien que je voulais plus que cela. Enfin, je comprends qu'on ne peut pas tout avoir en une fois. » Sur quoi il lui sauta au cou en déclarant « Ma consolation, c'est l'amitié ». Il faut souligner qu'il avait pris des risques en signant. Il fut qualifié de traître par certains des siens et même par des nationalistes d'autres tendances. Le 18 mars, Leclerc put faire son entrée dans Hanoï au milieu des Français en délire. L'événement accompli, l'amiral Thierry d'Argentlieu demanda à rencontrer Ho Chi Minh et déploya les fastes de notre marine pour le recevoir sur le croiseur L'Émile Bertin le 24 mars dans le cadre grandiose de la baie d'Along. Revue navale, marins en grande tenue, etc. En repartant, Ho Chi Minh eut ce mot. L'amiral a cru m'impressionner avec ses vaisseaux, mais ils ne peuvent pas remonter nos fleuves. Restait à meubler les accords qui, comme leur nom l'indique, n'étaient qu'une convention préliminaire. Deux conférences étaient prévues à cette fin. L'une préparatoire à Dalat, l'autre, après beaucoup de contestations franco-vietnamiennes et franco-françaises, en métropole à Fontainebleau. Le 31 mai, Ho Chi Minh quitta Hanoï pour Paris, mais à l'arrivée, il n'y avait pas de gouvernement français pour le recevoir. Celui de Félix Gouin venait d'être renversé. Ce n'est pas tout. Par la radio de l'avion, Ho venait d'apprendre que le 1er juin, l'amiral, au cours de la conférence préparatoire de Dalat, avait fait proclamer la Cochinchine, un des trois qui, république autonome. La Cochinchine était la plus riche région d'Indochine et elle était particulièrement liée à la France, ayant le statut de colonie. C'est pourquoi l'amiral, comme d'ailleurs le général de Gaulle, voulait la soustraire à l'union projetée des trois qui. Ho envisagea de repartir. On le persuada de rester en lui expliquant que cette mesure ne serait valable que si elle était confirmée par le référendum prévu. Puis on l'expédia à Biarritz, chargeant Jean Saint-Denis de le distraire en attendant la formation d'un gouvernement. Je vous passe les parties de pêche au thon avec les marins basques, les promenades sur le sable, les excursions gastronomiques. La joyeuse troupe alla même jusqu'à Lourdes. Le 8 juillet, ouverture de la conférence de Fontainebleau. Tout se passa mal. L'extrême gauche française, qui pourtant avait approuvé sans réserve les accords du 6 mars, chauffa de son mieux l'entourage de Ho Chi Minh, compromettant sciemment les chances d'un règlement pacifique. La droite, quant à elle, encourageait nos négociateurs à l'intransigeance et criait à la trahison. Le 1er août, quand on apprit que l'amiral avait convoqué à Dalat une deuxième conférence aux fins de déterminer la position qu'occuperait la Cochinchine dans la fédération indochinoise aux côtés du Laos et du Cambodge, ce fut la suspension immédiate des négociations. Elles reprirent quelques jours plus tard sur l'intervention de Ho Chi Minh, mais la confiance était morte. Pham Van Dong, après un discours enflammé, quitta les lieux avec la délégation vietnamienne. Après Fontainebleau, Ho Chi Minh, lui, ne partit pas. Quand on lui demandait pourquoi, quand on lui représentait que sa présence à Hanoï pourrait apaiser le climat politique qui régnait là-bas, il répondait « Je ne veux pas repartir les mains vides, je serai discrédité et donc impuissant ». À Marius Moutet, le ministre des colonies, il avait déjà dit « Armez mon bras contre ceux qui cherchent à me dépasser, vous n'aurez pas à le regretter ». Et c'est au cours de cette conversation qu'il ajouta, avec une espèce de résignation, cette phrase souvent citée depuis « S'il faut nous battre, nous nous battrons ». Vous nous tuerez 10 hommes pendant que nous vous en tuerons un, et c'est vous qui finirez par vous lasser. Étrange coïncidence, Marius Moutet était un de ses anciens camarades de la Deuxième Internationale. Il ne lui accorda néanmoins qu'un modus vivendi qui n'était guère que bonne parole. O traîna encore 2 jours après la signature de cet acte. Puis le 16 septembre, il partit, mais en train. En descendant vers Marseille, il s'arrêta à Lyon, puis à Avignon, pour rendre visite à des compatriotes, anciens combattants de 39-45, qui étaient restés en France. À Marseille, quelques cris de « Viet Jan, traître » s'échappèrent du groupe de Vietnamiens venus à la gare. Le 19 septembre, enfin, il s'embarque. Le 21 octobre à Haïphong, puis le 23 à Hanoï, il parle à la foule sur le ton de l'apaisement, dit que la conférence reprendra en janvier, puis réussit à faire entonner par ses compatriotes la Marseillaise après l'hymne vietnamien. Ce fut sa dernière manifestation pro-française. Le 20 novembre, une jonque chinoise de contrebande transportant de l'essence est saisie par notre marine dans les eaux du port de Haïphong. La question de la souveraineté douanière était une de celles qui étaient restées en suspens. Des Touvés, sortes de miliciens Viet Minh, ouvrent le feu sur nos marins qui remorquaient la jonque. Vive réaction de notre part. Néanmoins, un cessez-le-feu est rapidement conclu. Mais le 22, le haut commissariat de Saigon, par la bouche du général Valuy, assurant l'intérim de l'amiral en mission à Paris, donne ordre au commandant d'armes de Haïphong de se rendre maître de la ville. 20 000 morts selon les Viet, quelques 200 selon les Français. Le lendemain 23 novembre, le gouvernement réexpédie Jean Saint-Denis en Indochine, nanti des pleins pouvoirs civils et militaires. Le 26, il fait escale à Saïgon, mais le général Valuy l'y retient au motif que les opérations militaires ne sont pas entièrement terminées, si bien qu'il n'arrive à Hanoï que le 2 décembre. Il fait aussitôt demander un rendez-vous à Ho Chi Minh, qui le lui accorde pour le lendemain, précisant qu'il est malade. Le 3, en effet, Ho Chi Minh le reçoit couché, apparemment fiévreux, entouré de 2 collaborateurs qui ne quittent pas la pièce. Pas de conversation possible, sauf de vagues regrets. Le 11 décembre, on remet à Jean Saint-Denis un appel de haut à l'Assemblée et au gouvernement français non signé. Le texte est renvoyé et il fallut plusieurs jours pour qu'on le rapporte à signer. Le 19 décembre, c'est le coup de force Viet Minh. On entend à la radio un appel de haut à la résistance nationale. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil, que celui qui a une épée se serve de son épée, et si l'on n'a pas d'épée, qu'on prenne des pioches et des bâtons. Dans Hanoï, la voiture de Jean Saint-Denis saute sur une mine. Quand, le 24 février suivant, il sera en état de regagner la France, il recevra de Ho Chi Minh la lettre suivante. « Cher ami, je viens d'apprendre que vous allez rentrer en France. Je vous envoie mes vœux de bon voyage et de bonne santé. Je suis sûr que, comme moi, vous regrettez profondément que notre travail commun pour la paix soit démoli par cette guerre fratricide. » Je vous connais assez pour vous dire que vous n'êtes pas responsable de cette politique de force et de reconquête. C'est pourquoi je tiens à vous répéter que malgré ce qui est arrivé, vous et moi, nous restons amis. Et je peux vous affirmer que nos deux peuples aussi restent amis. Il y a déjà assez de morts et de ruines. Que devons-nous faire maintenant, vous et moi ? Il suffit que la France reconnaisse l'indépendance et l'unité du Vietnam, et immédiatement les hostilités cesseront, la paix et la confiance reviendront, et nous pourrons nous mettre au travail et à la reconstruction pour le bien commun de nos deux pays, etc. Souhaitons que Dieu nous accorde le succès. Votre dévoué. Alors évidemment, la grande question, c'est duplicité du début à la fin. Des bonnes paroles pour endormir l'adversaire et faire semblant de garder les mains propres pendant qu'on fourbit ses armes, qu'on lâche ses miliciens, qu'on transforme Hanoï en champ de mine. Rien à sauver du personnage, en ce qui nous concerne du moins. Il me semble que la réalité est plus complexe. Ho Chi Minh voulait l'Indochine, mais il ne voulait pas nécessairement la guerre. C'était plutôt un homme de subversion qui savait attendre. Et la situation internationale étant ce qu'elle était, le Parti communiste exerçant alors en France l'influence qu'on sait, il pouvait penser qu'il arriverait ainsi à ses fins. Mais à côté de lui, il y avait quelqu'un qui voulait la guerre. C'était Giap. Il nous haïssait. Sa femme et sa belle-sœur étaient mortes par nos soins. Il voulait nous punir. Il voulait du sang. Il avait rongé son frein pendant les tentatives de conciliation. Il jugeait qu'il avait assez patienté, et l'on peut penser qu'il y avait eu une sorte d'accord préalable entre lui et Ho Chi Minh. Vous négociez, mais moi, pendant ce temps, je mets au point le déclenchement des hostilités en cas d'échec. Et ceci expliquerait la lenteur mise par Ho Chi Minh à rentrer en Indochine après l'échec de Fontainebleau. Ce qui n'exclut pas qu'il ait aussi éprouvé quelques craintes à rentrer les mains vides, comme il disait. J'ajoute que Giap aimait la guerre et que, comme chacun sait, hélas, il avait l'étoffe d'un grand stratège. Je signale à l'attention particulière de Jean Tullard, j'espère qu'il est là, que l'idole de Giap, c'était Napoléon. Il était capable de dessiner au tableau noir tous ses plans de bataille. Ce qui est mensonger dans la lettre d'Ho Chi Minh citée plus haut, ce n'est pas ses regrets pour le passé, mais ses propositions pour l'avenir. Nous pourrons nous mettre au travail et à la reconstruction pour le bien commun de nos deux pays. Car une fois signés les accords de Genève en 1954, après l'atroce guerre d'Indochine, il y eut bien une tentative de coopération. C'est à cette fin, et aussi naturellement pour sauver ce qui pouvait l'être des intérêts français, que Pierre Mendès France, président du Conseil, renvoya Jean Saint-Denis à Hanoï. Or, en dépit des embrassades et, de temps en temps, des petits dîners, rien de durable ne put être échafaudé, parce qu'au plan de la politique intérieure, Ho Chi Minh mettait en place une démocratie populaire de la plus pure espèce, avec laquelle la coopération économique était très difficile, pour ne pas dire impossible, malgré quelques petits succès du début. Il faut avouer que les Américains ne facilitaient pas les choses pour des raisons exactement inverses à celles de 1945. Revenus de leurs erreurs, ils ne songeaient plus qu'à contenir la poussée communiste en Asie, soutenaient de toutes leurs forces le Sud-Vietnam et n'étaient pas loin de considérer la présence d'une représentation française au Nord comme une trahison. Mendès France, en l'y envoyant, n'avait pas mesuré le peu d'autonomie dont la France jouissait alors en politique étrangère. Et pourtant, il avait accepté de ne donner que le titre de délégation générale et non celui d'ambassade à cette représentation française. Et pourtant, il avait refusé la réciprocité diplomatique à la RDVN, ce qui ulcérait Ho Chi Minh et son gouvernement. Au bout de quelques années seulement, ils obtinrent d'avoir à Paris un attaché commercial, rien de plus, et durent s'en contenter pendant longtemps. Il y avait un autre problème. La France, en la personne de ses représentants à Hanoï, pouvait-elle rester muette devant les rigueurs du régime ? Car une fois mise en place et malgré les bonnes paroles, il ne cessa de se durcir. La réforme agraire donna lieu à des procès publics, dont ceux de certains prêtres, la plupart vietnamiens, mais deux prêtres français n'y échappèrent pas. Quant aux évêques, ils furent confinés dans leur diocèse. Il fallut bien agir pour les uns et pour les autres. Il fallut même une fois aider à fuir des Européens de l'Est, trois Hongrois et leurs familles. Ils se trouvaient à Hanoï comme coopérants et avaient manifesté trop clairement leur hostilité qui sévissait au Vietnam comme chez eux. J'ai raconté cela dans un livre de souvenirs. Ce dernier épisode humilia durablement Ho Chi Minh et d'autant plus qu'il ne parvenait pas à comprendre comment le tour de passe-passe avait pu être joué. Mais il en soupçonnait assez pour qu'après cela s'en fût fini des contacts personnels et des petits dîners. Et ses ministres n'étaient pas plus accueillants. Pourtant, quand plus tard, en 1966, le général de Gaulle envoya Jean Saint-Denis en mission auprès d'Ho Chi Minh, il n'eut que des sourires et, s'agissant de la lettre d'introduction du général, que des plaisanteries. « Vous introduire auprès de moi, ce n'est vraiment pas la peine. Nous nous connaissons bien, je pense, et depuis longtemps. Et puis ne m'appelez plus Monsieur le Président, c'est ridicule entre nous. » Le politique avait avalé l'humiliation et le comédien avait repris le dessus.
C'est terminé. Voilà.